Well, that's good, because if we have the operators up here, the end, and
then... Well, yeah, it's... Every robot, yeah. Yeah, it's...
Good morning, ICANN61. How it works, root sewer operation. March 12th.
Time?
Thanks.
They want both of them?
Yeah, I think they want both of them.
So who's going to have the other mic?
Hi.
Who's going to have the other mic?
Oh, I guess, well, the presenter will have the mic, right?
The mic?
Yeah, because yeah, when they want to walk around.
But test, test.
I'm sitting here, right? It's okay.
This is a test. Test 1, 2, 3. Sounds pretty good.
Good morning, everyone.
Bonjour à tous. Bienvenue à cette séance sur comment cela fonctionne. Nous avons un peu de retard suite à cette cérémonie d'ouverture qui a été magnifique. Soyez patients, nous allons commencer sous peu. Merci.
Hey folks, we're going to get started in about 2 or 3.
Bien, nous allons commencer dans 2-3 minutes. Nous avons pris 15 minutes de retard parce que la cérémonie d'ouverture a duré un peu plus. Mais nous allons vous prier d'être prêts à commencer dans 2-3 minutes. Merci.
Good morning.
Cathy Peterson au micro. Bonjour à tous, encore une fois. Soyez les bienvenus à cette séance de comment cela fonctionne. Pour cette séance, nous allons aborder les opérations du serveur racine. Nous vous remercions encore une fois d'avoir été patient. Andrew McConaughey est le premier présentateur. Donc, Andrew, allez-y. Andrew McConaughey prend la parole. Merci. Bonjour, je suis Andrew McConaughey. Je travaille pour le soutien de politique de l'ICANN, je soutiens le RSAC et j'aborderai le système de serveur racine. Nous allons commencer par un peu de contexte. Nous avons divisé ce programme en 4 parties, un aperçu du système de nom de domaine, le système de serveur racine actuel et ses fonctionnalités. Et puis je céderai la parole à Steve Cheng, ici à mes côtés, qui nous expliquera NECAS et puis abordera le RSAC et certaines activités récentes du RSAC. Par la suite, nous aurons une séance de questions-réponses avec certains des opérateurs de serveurs racines qui sont dans la salle. Donc, nous allons leur demander de nous rejoindre à table pour répondre aux questions. Donc, si vous avez des questions, gardez-les jusqu'à la fin. Nous allons commencer donc par un aperçu du système de nom de domaine et des serveurs racines. Alors, qu'est-ce que c'est que les adresses IP et comment fonctionnent-elles en tant qu'identificateurs sur Internet? Les adresses IP sont les identificateurs fondamentaux sur Internet et tous les autres connectés à l'Internet ont besoin d'avoir des adresses IP, que ce soit du type IPv4 ou IPv6 ou s'ils opèrent à travers un réseau. C'est toujours des adresses IP dont ils ont besoin. Les adresses IP étant donc des étiquettes numériques qui ne sont pas faciles à retenir. Ce sont des suites de numéros. Voilà. La Zapette ne fonctionne pas très bien ce matin. Alors, pourquoi avons-nous besoin du DNS? À l'origine, comme je l'ai dit tout à l'heure, les adresses IP n'étaient pas faciles à retenir et elles changeaient souvent. Donc le problème avec le DNS était qu'il nous fallait des noms que les personnes puissent retenir pour pouvoir se rappeler des adresses, pour pouvoir se rappeler de comment accéder au site. Ces problèmes existe toujours, mais il y a d'autres problèmes modernes, comme par exemple le fait que les adresses IP peuvent être partagées et qu'il se pourrait qu'il y ait différentes adresses IP qui accèdent au même service. Donc le problème moderne est qu'on avait des points d'entrée ou d'accès multiples à un seul site et vice-versa. Le système des noms de domaine est donc hiérarchique. Comme vous voyez sur le schéma à l'écran, nous avons au sommet la racine et au-dessous, nous avons les noms de domaine de premier niveau, connus également comme TLD, dont certains exemples comprennent de .edu, .miel, .uk. Au-dessous de ce niveau, nous avons une deuxième couche ou un deuxième niveau et puis un troisième niveau et ainsi de suite. Il s'agit donc d'une cartographie de noms à adresse IP. Mais il y a également d'autres systèmes de repérage ou de mappage, comme on le connaît, c'est-à-dire les serveurs de courrier que l'on connaît comme enregistrement de ETR, des noms, et puis le système inverse qui nous permet de revenir d'une chiffre au nom. Ici, on voit un schéma un peu plus compliqué. Je vais prendre un moment pour vous expliquer ce diagramme qui est censé montrer le processus de résolution du DNS, c'est-à-dire comment on utilise vos expériences avec le DNS, ce que doit ou par quoi l'utilisateur doit passer, c'est-à-dire le flux de fonctionnement du DNS pour que l'utilisateur puisse accéder d'un nom de domaine à une adresse IP et finalement à un site web. Ici à droite, on a un utilisateur Internet qui est le client qui veut vraiment accéder au site www.exemple.com comme serveur web. Donc pour commencer, il va ouvrir un navigateur qui va lui demander de saisir un nom de DNS qui passera alors par un serveur de nom récursif. Et on suppose que ce serveur de nom récursif n'a pas d'informations en cache. Donc pour cette démonstration, on assumera que ce serveur vient d'être allumé, qu'il n'a pas d'informations, qu'il ne sait rien. Donc qu'est-ce qu'il va faire? On vient de lui donner une requête pour accéder au site exemple.com. Avant de rendre une réponse à l'utilisateur, il va commencer par accéder à la racine. Donc il demandera à la racine, regardez, j'ai besoin d'accéder à cette adresse, exemple.com. Et le serveur racine dira, aucune idée, mais je sais où trouver le .com. Donc la réponse du serveur de nos racines au serveur de nos récursifs sera où trouver le .com. Donc le serveur récursif contactera alors le serveur de nom du .com pour lui demander où trouver l'adresse exemple.com. Le serveur du nom.com dira « Aucune idée, mais je sais où trouver le serveur du nom exemple.com ». Le voilà. Et donc, le serveur de nom récursif accédera au serveur de nom exemple.com pour lui demander où trouver le www.exemple.com. Et finalement, le serveur de nom récursif obtiendra la bonne réponse et la fera passer à l'utilisateur Internet avec l'adresse IP de ce nom de domaine qui est www.exemple.com. Voilà comment un utilisateur passe par tout le processus de résolution d'un nom de domaine vers une adresse IP pour accéder à une page web. Or, dans cette diapositive, on a également un autre aspect qui est l'aspect sécuritaire que l'on connaît comme DNSSEC ou sécurité du DNS. C'est-à-dire que pour chacune de ces questions, pour les communications entre le serveur de nom récursif et chacun de ces serveurs de nom faisant autorité, que ce soit le serveur de racine ou du nom.com ou du nom exemple.com, les réponses qui sont envoyées au serveur de nom récursif de ces serveurs faisant autorité sont signées. C'est-à-dire que le serveur récursif peut valider que cette réponse est la bonne réponse, qu'il n'y a pas eu d'intervention entre les deux, qu'il n'y a pas d'autres serveurs de nom qui n'est pas le bon, qui lui donne la réponse. Et c'est ça le DNSSEC. C'est ce qui permet de vérifier que c'est le serveur de nom faisant autorité qui a répondu. Donc voilà le processus de résolution de nom de domaine. Ah, la zapette a besoin de quelques pouces. Bien, donc, comme on disait, le serveur de racine on a besoin de savoir que ce que l'on va demander par la suite. On a une liste de serveur.com ou .net ou .org. Or, en général, ce n'est pas la question qu'on leur demande souvent. On avait une situation hypothétique où on venait d'allumer le serveur de non récursif qui n'avait pas d'informations en cache, ce qui est rare en réalité. Les serveurs récursifs ont beaucoup d'informations en cache, en général, et la plupart des requêtes qui sont envoyées au serveur de non, en fait, sont déjà en cache, c'est-à-dire qu'il y a peu de requêtes envoyées à la racine, ou moins que ce qu'on pourrait penser. Alors, il y a eu quelques modifications modernes au DNS. J'ai déjà expliqué le DNSSEC, qui est connu comme extension de sécurité ou sécurité du DNS. Le DNSSEC vise à signer les réponses qui sont envoyées au serveur de non récursif pour que ces derniers, à la fois, puissent valider les réponses. Par valider, j'entends que, en fait, on peut vérifier qu'il s'agit de la bonne réponse parce qu'on a une signature cryptographique qui valide la réponse et le fait que la réponse est correcte. Il y a également des améliorations à la confidentialité. On y travaille toujours au sein de l'IETF, la force, l'équipe de travail de génie Internet. Donc, par exemple, on travaille sur une couche de sécurité du transport des informations Internet qui sécurisera la transmission de la requête pour garantir qu'il n'y ait que les deux parties impliquées à l'échange qui puissent voir ces informations. Une autre modification moderne est le système Anycast. Le système Anycast travaille beaucoup avec les serveurs racines et ce qui fait est en général de permettre que différents serveurs partagent une même adresse IP et protègent les serveurs des attaques de déni de service, de DDoS. Mon collègue Steve abordera cette question plus tard. La zone racine vis-à-vis des serveurs racines. C'est-à-dire que la zone racine a les données qu'utilisent les serveurs racines. C'est-à-dire que la zone racine est le point de départ. C'est une liste de noms de TLD et de serveurs de noms. C'est un schéma qui est donc géré par l'ICANN, par politique communautaire. Et il s'agit d'une liste consolidée et distribuée par le mainteneur, le responsable de l'entretien de la zone racine à tous les opérateurs de serveurs racines. Et en définitive, c'est la base de données avec tous les contenus qu'utilisent les serveurs racines. Les serveurs racines répondent avec les données contenues dans la zone racine. En ce moment, on a 13 identités différentes qui composent entre toutes le serveur racine, qui sont distribuées sur 900 instances. Il s'agit d'un rôle purement technique et chacun des opérateurs de serveurs racines, en fait, est responsable de sa propre exploitation. On se demande ici ce que c'est qu'un opérateur de serveur racine. On a en ce moment 12 groupes de génie professionnels différents qui se centrent sur la fiabilité et la stabilité du service pour qu'il soit accessible à tous les utilisateurs Internet. Ils coopèrent entre eux, ils sont professionnels. Il s'agit d'un groupe d'organisations diverses, c'est-à-dire qu'il y a des organisations qui varient en termes géographiques, organisationnels et techniques. Cependant, les opérateurs ne s'impliquent pas à l'élaboration de politiques et à la modification de données. Ils ne font que, en fait, desservir ces données. Pourtant, ils s'impliquent à l'évolution ou l'extension opérationnelle du service, à l'évaluation et au déploiement suggéré des modifications techniques et des nouvelles normes qui pourraient être élaborées par l'IETF. Et ils s'assurent que le service soit toujours stable, robuste et accessible à tous les utilisateurs de l'Internet. Donc voilà un peu le contexte sur le DNS. C'était un peu technique, mais probablement pas trop. Nous allons maintenant entrer dans le domaine du système de serveur racine actuel et ses fonctionnalités. J'espère qu'on pourra passer la diapositive. Voilà. Alors, la croissance du système de serveur racine. Cette diapositive montre l'évolution historique de la quantité d'identités de serveurs racines au fil du temps, depuis les années 80. Donc, vous voyez l'évolution. Et depuis 98, nous avons 13 identités différentes. Ces changements répondent aux demandes techniques, aux questions d'extensibilité. Et à l'heure actuelle, les questions liées à l'extensibilité sont résolues par Anycast, qui est un outil véritablement magnifique, qu'utilisent les opérateurs de serveurs racines pour pouvoir aborder les questions liées à l'extensibilité. Les serveurs de système racine exploitent leurs services en IPv4 et IPv6, c'est-à-dire qu'il y a 13 paires d'adresses IPv4 et IPv6, et il existe plus de 900 instances internationales, comme je disais tout à l'heure. Voici quelques-uns des principes de base du système de serveurs racine. Il y en a 5. Il est important que le système de serveurs racine fournisse une plateforme stable, fiable et résiliente pour le DNS, qu'il opère dans le bien commun de tout l'Internet, que l'IANA est la source des données de racine du DNS, c'est-à-dire les données qui sont dans la zone racine, que les changements à l'architecture soient fondés sur les résultats de l'évaluation technique et des besoins techniques tels que démontrés, et que l'exploitation et les attentes techniques du DNS soient définies par l'IETF. Si vous êtes intéressé par l'histoire du système de serveurs racine, vous pouvez toujours télécharger et lire le document RSAC 023, l'histoire du système de serveurs racine, qui est disponible sur le site web du RSAC. On a ici une liste des opérateurs de serveurs racine à l'heure actuelle. Vous voyez les 13 identités là-dessus, leur nom d'hôte à gauche. Dans la colonne de milieu, vous voyez les adresses IP en IPv4 et IPv6. Donc on a les deux versions pour chacun d'entre eux, chacun des autres. Et puis, chacune de ces adresses IP en IPv4 et IPv6, ou au moins les adresses IPv4, en fait, sont hébergées dans un nuage IPv4. C'est-à-dire que derrière ces adresses IP, il y a énormément de serveurs, ce qui arrive à plus de 900 en ce moment. Mais en fait, il y en a de plus en plus. La dernière fois que j'ai fait cette présentation, on en était à plus de 800 et maintenant on en est à plus de 900. Donc vous voyez que ça évolue constamment. Voici les serveurs racines dans l'actualité. Donc ça, cette image a été tirée du site web rootservers.org, root-server.org. Ça vous montre où sont situés les serveurs racines. Ce n'est pas tout à fait exact. Ça ne vous dit pas, par exemple, qu'il y a 7 instances du serveur racine à Madagascar. Il s'agit d'un graphique. Mais si vous accédez au site web, il est possible de voir un peu plus de détails, voir les villes même où chaque instance se trouve. Ici, c'est un aperçu un peu général, mais si vous accédez au site web, vous pourrez voir des informations bien plus détaillées. Voilà la structure de gestion de la zone racine. C'est-à-dire que les données de la zone racine sont envoyées au système de racine, au système de serveur racine. Donc, si on a besoin d'apporter un changement aux données hébergées dans la zone racine, que vous changez vos enregistrements de call ou certaines informations associées à vos registres, au registre de votre TLD, vous allez contacter l'IANA pour faire ce changement qui sera alors communiqué au mainteneur de la zone racine, à l'heure actuelle, donc VeriSign. Et deux fois par jour, ce changement, où toute la zone, en fait, non pas seulement les modifications, seront envoyées aux opérateurs de serveurs racines. Et les opérateurs de serveurs racines seront alors responsables de communiquer ces informations à tout le nuage Anycast et d'envoyer ces informations à toutes les requêtes reçues des résolveurs de noms de domaine. Certaines des fonctionnalités des opérateurs de serveurs racines apparaissent ici à l'écran. Donc on a une diversité de structures organisationnelles, d'histoires opérationnelles qui varient également parfois. Ils utilisent différents matériels, différents logiciels, ils ont différentes plateformes de matériel et de logiciels. Ce qui est utile au niveau de la sécurité parce qu'on a une corrélation forte entre les différents matériels et une sécurité consolidée. Et puis on a différents types de modèles fondationnels, c'est-à-dire qu'on a différents types d'organisations. Ces opérateurs partagent leurs meilleures pratiques, ce qui leur permet d'avoir une sécurité de système physique améliorée, d'avoir une capacité qui a plus de fournitures que nécessaire. Et puis, ils ont également du personnel professionnel à qui ils font confiance. Les opérateurs coopèrent à travers les différentes réunions de l'industrie et de la communauté, dont l'ICANN, mais il existe également des réunions de l'équipe de travail de génie Internet, NANOG, RIPE, donc ce sont les réseaux régionaux. Il existe des groupes de recherche opérationnelle. également, mais ils utilisent en tout cas des outils de collaboration sur Internet et ils ont des opérations qui sont toujours transparentes. Les opérateurs collaborent également pour coordonner leurs réponses aux situations d'urgence ou pour pouvoir répondre à tout type de problèmes qui pourraient avoir lieu. Ils ont des activités périodiques qu'ils organisent pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir avoir de meilleures capacités de réponse en cas d'urgence, d'intervention en cas d'urgence. Et ils ont différents organismes Internet établis. À mesure que l'Internet donc établit, il y a de nouvelles exigences que l'on applique au système de DNS. Les opérateurs ont donc, par exemple, adopté l'IPv6 comme réponse au changement. On a également compris le DNSSEC et les IDN ici, parce qu'il y a beaucoup d'IDN déjà hébergés dans la zone racine. Et le principal est de renforcer la capacité de réponse, la résilience et la force ou la solidité, comme on dit, de l'Internet. Donc on a différentes instances, d'Anycast 900, ou plus de 900 même. On a ici quelques mythes ou quelques fausses idées que l'on pourrait avoir par rapport au système de serveurs racines. Mythe numéro 1, les serveurs de racines contrôlent tout le trafic Internet, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas vrai du tout, d'ailleurs, c'est un mythe. Ce sont en fait les routeurs qui vont contrôler par où passe le trafic Internet. Peut-être que ce mythe existe parce que le DNS va mettre en vis-à-vis ou mettre en correspondance les adresses IP avec les noms de domaine, mais en général, c'est les routeurs qui vont contrôler par où passent les paquets d'informations. Un autre mythe est que la plupart des requêtes du DNS sont gérées par un serveur racine, mais comme on a vu dans l'exemple, cela n'est vrai que si les informations étaient hébergées en cache dans le serveur de nom récursif ou que le serveur de nom récursif n'avait pas ces informations, donc il devrait les demander. Mais en général, la plupart des requêtes du DNS ne sont pas gérées par le serveur racine. Dans la plupart des cas, il s'agit de requêtes qui sont gérées directement par le serveur de nom récursif. La gestion de la zone racine, la fourniture de services sont la même chose. Voilà, troisième mythe, ce qui n'est pas vrai. On avait un diagramme qui montrait tout à l'heure la division des responsabilités et le changement de la manière dont ces informations arrivent à être divisées en requêtes. Un autre mythe est que les identités des serveurs racines ont un sens spécial, ce qui n'est pas vrai, ou qu'il n'y a que 13 serveurs racines, on en a plus de 900. Un autre mythe serait que les opérateurs de serveurs racines exploitent leurs opérations de manière indépendante. Et bien qu'il s'agisse d'organisations indépendantes, ils travaillent en coordination, en collaboration entre eux, avec tous les autres, pour garantir que le service soit stable pour tout le système de serveurs racines. Et puis, mythe final, les opérateurs de serveurs racines ne reçoivent que la partie du TLD d'une requête, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Ils vont recevoir toute la requête. C'est comme cela que fonctionne le DNS. Au sein de l'IETF, il y a des travaux en cours pour modifier cela. Si cela vous intéresse, le mot-clé est Qname Minimization. Vous pouvez le consulter. Donc, à partir de cette initiative, chacun ne recevrait que la partie qui le concerne d'une requête. Je vais maintenant céder la parole à mon collègue Steve Chang qui présentera les deux partie qui reste, à commencer par Anycast.
Thank you.
Steve Chang au micro. Merci, André. Je m'appelle Steve Chang. Je appartiens au personnel de l'ICANN qui soutient le travail du RSAC. Je vais vous parler de Anycast et des activités du RSAC. Anycast est un système de routage. Excusez-moi, je vais revenir en arrière. Il y a deux termes ici, Unicast et Anycast. Et il y a une différence importante entre eux. Dans l'Unicast, les paquets ou les datagrammes venant des sources vont tous vers la même destination. Et une instance unique sert toutes les sources. En cas d'attaque par déni de service, DDoS, tout le trafic va vers une instance unique. Voilà pour Unicast. Pour ce qui est du Anycast, il y a des instances multiples qui servent les mêmes données pour toutes les sources. Et donc, ces instances ont toutes la même adresse IP. Et les routages intermédiaires déterminent donc la destination en fonction de la source. Cela veut dire que la source obtient les données plus rapidement et les attaques par déni de service sont envoyées à l'instance la plus proche. Je vais vous illustrer tout cela avec un diagramme, un schéma. Ici, vous voyez une illustration d'Unicast. Vous voyez une source et une destination. La destination, c'est une instance unique et le trafic prend la route la plus courte vers la destination. Unique. Dans le cas d'Unicast, vous voyez les trois destinations en bleu. Ces destinations ont toutes la même adresse IP. Et la politique de routage détermine quelle en est la plus proche, c'est-à-dire quelle est la destination la plus proche de la source. Et donc, le trafic, la route entre la source et la destination est plus courte. Et comment cela contribue à... quel est le rapport entre cela et les attaques par déni de service? Dans ce type d'attaque, l'attaquant attaque la destination, mais le trafic va uniquement vers la destination la plus proche. Alors, l'une des destinations va être débordée, mais les autres destinations peuvent encore recevoir du trafic. L'une des questions que l'on reçoit dans ce type de séance est de savoir... de la part des opérateurs de serveurs racines ainsi que des opérateurs de services. Si vous êtes un opérateur de réseau et que vous voulez avoir 3 ou 4 instances, vous aurez une instance qui sera plus proche de vous et dans ce cas-là, le routage sera plus court. Mais vous allez vouloir également améliorer les routages. Vous pouvez avoir une instance proche de vous, mais votre instance va travailler, le trafic va quand même faire des tours. Et donc, il est important de pouvoir tenir ça en compte. Si vous êtes un opérateur de résolveur récursif, pour augmenter votre cache, vous pouvez considérer le fait de déployer la technologie qui fait une copie de la zone racine et des adresses IP. Et le bénéfice de cela, c'est que parfois, cela réduit les risques liés à la confidentialité des serveurs récursifs aux serveurs qui doivent recevoir les requêtes. Il est important donc de mettre en place la validation DNSSEC qui va nous assurer que vous recevez des informations valides, que ces informations n'ont pas été modifiées. Et finalement, nous invitons les experts techniques à participer et à contribuer au caucus RSSEC où des avis en matière technique sont élaborés. Maintenant, je vais vous parler un petit peu, je vais vous donner un aperçu du travail du RSSAC. RSSAC. RSSAC veut dire Comité consultatif du système de serveurs racines. Il a pour mission de conseiller la communauté de l'ICANN et le conseil d'administration par rapport à des questions liées au fonctionnement, à l'administration, à la sécurité, à l'intégrité du système de serveurs racines de l'Internet. C'est un mandat très précis qu'a ce comité consultatif. Une précision importante que je dois apporter, car parfois cela n'est pas bien compris au niveau de l'ICANN, c'est que le RSSAC est un comité qui produit des avis, en premier lieu vers le conseil d'administration, mais aussi vers d'autres organes et organisations de l'ICANN qui participent à la gestion du DNS. Or, les opérateurs de serveurs racines sont représentés au sein du RSSAC, mais il est important que le RSSAC n'est pas impliqué dans des questions opérationnelles. Je pense que c'est une précision importante à faire. Il ne faut pas confondre donc ces entités. Dans la structure de gouvernance de l'ICANN, le RSEC fait partie des comités consultatifs. C'est le quatrième comité consultatif de l'ICANN. Et vous le voyez, où est son rôle dans l'écosystème de l'Internet. En ce qui concerne l'organisation RSEC, il est composé par des représentants nommés par les opérateurs de serveurs racines. Il y a aussi des agents de liaison avec d'autres opérateurs de zones racines et avec d'autres acteurs clés. Nous avons également un caucus RSAC. C'est un organe composé par des experts bénévoles. Les membres sont confirmés par le RSAC en fonction de leur manifestation d'intérêt. En ce moment, les coprésidents du RSAC sont Brad Verd de Verisign, Tripti Sinha de l'Université de Maryland. Brad, il est là, il a levé sa main. Tripti n'est pas là. Peut-être qu'il est sorti à un moment de la salle. Au sein de RSAC, nous avons plusieurs agents de liaison. On a une liaison de l'opérateur de fonction IANA, du responsable de la maintenance de la zone racine. Vous avez vu donc le diagramme. Nous avons l'IANA, le responsable de la zone racine, de la maintenance de la zone racine, le conseil d'architecture de l'Internet. Nous avons également un agent de liaison de l'IAB. L'IAB est chargé de donner des orientations par rapport au modèle d'architecture de l'Internet. Au sein de l'ICANN, le RSAC a des liaisons au sein du comité consultatif sur la stabilité et la sécurité, le conseil d'administration, le comité de nomination de l'ICANN, le comité permanent des clients, le comité de révision de l'évolution de la zone racine, qui doit évaluer la performance des fonctions IANA qui sont assurées par la PTI. Le comité de révision de l'évolution de la zone racine est un comité qui a été créé dans le cadre de la transition de l'IANA pour évaluer l'évolution de la zone racine. Pour ce qui est du caucus RSAC, nous avons des experts techniques. Il y en a 88. Ils doivent présenter des manifestations d'intérêt qui sont publiques. Dans toutes les publications du RSAC, les membres du caucus qui contribuent à ces travaux doivent être reconnus donc à la fin de la publication. Chaque contributeur est reconnu. Le caucus travaille de manière transparente par rapport à qui fait quoi. Le matériel ou la documentation est ouverte à tous. Vous pouvez accéder à ce matériel. Et nous avons des cadres, des processus de travail. Si vous êtes intéressé à participer au travail de ce caucus, il y a sur l'écran affiché l'adresse électronique à laquelle vous devez envoyer votre manifestation d'intérêt. Le RSAC a publié récemment des documents. Nous avons toute une série de publications numérotées. Nous sommes au RSAC 31. Nous avons récemment publié le RSAC 29 qui se penche sur les résultats de l'atelier du RSAC tenu en octobre 2017. Le RSAC 30 est une déclaration sur les entrées dans les sources racines du DNS. Et le RSAC 31 est une réponse au processus, au groupe de travail PDP, c'est-à-dire processus d'élaboration de politique, sur les procédures pour des séries ultérieures de non-domaines génériques de premier niveau. Le RSAC tiendra une séance publique cette semaine. Je vous invite à y participer pour connaître davantage de détails par rapport à ces publications. Quel est le travail en cours? D'un côté, l'harmonisation des procédures de collecte de données concernant l'anonymisation. Le RSAC a publié le RSAC 002. Les opérateurs ont mis en œuvre cela pour publier des statistiques sur les serveurs racines et le système de serveurs racines. Il y a un effort en cours également pour essayer d'évaluer les procédures d'anonymisation. Et il y a également un autre travail en cours sur la taille des paquets dans Hello DNS. Depuis la restructuration du RSSAC en 2013, la transparence est un objectif important et nous essayons en permanence de l'améliorer. Nous avons fait quelques progrès en ce sens en établissant le caucus, en publiant les procès-verbaux de nos réunions pour que la communauté de l'ICANN puisse comprendre où nous en sommes par rapport à notre travail et par rapport aux ateliers que nous tenons. Il y a un calendrier pour le travail du caucus RSA où vous trouverez les différentes réunions que nous tenons ainsi que les séances publiques. Nous avons des tutoriels et les agents de liaison se chargent de garantir que l'information puisse arriver au bon destinataire. Et finalement, le RSA a publié les procédures opérationnelles qui définissent le fonctionnement du RSA. Tout cela est publié sur le site web. Et nous en sommes à la troisième révision de ces principes opérationnels. Les opérateurs de serveurs racines essayent à leur tour d'améliorer leur transparence. Ils ont publié leur programme pour les réunions de l'IETF. Chaque opérateur racine doit publier donc les statistiques de leur travail. Ils participent au RSSAC. Il y a une page web. Et à partir de cette page web, vous pouvez accéder aux différentes pages web des différents opérateurs. Ils travaillent en coopération en cas d'événements majeurs, par exemple l'attaque par déni de service qu'on a pu voir l'année dernière. Et cette page web sert à canaliser ces questions pour qu'elles arrivent au bon destinataire. Pour plus d'informations, vous voyez ici le lien vers la page web du RSSAC. Pour des questions générales, vous pouvez écrire à cette adresse électronique que vous voyez sur l'écran. Et vous voyez également le lien vers le caucus du RSSAC. Et finalement, je voulais attirer votre attention sur le fait que le RSSAC a publié récemment sur son site web une partie concernant les questions fréquemment posées, une foire aux questions. Donc, et certaines de ces questions viennent justement des séances comme celle que nous tenons en ce moment. Voilà un petit peu le travail du RSSAC. Maintenant, nous arrivons à la fin de notre présentation. Nous avons certains membres du RSSAC ici présents. J'aimerais les inviter à venir au podium pour qu'ils se présentent et pour qu'ils répondent à des questions que vous pourriez avoir. Très bien. Je vais inviter maintenant les membres du RSSAC ici présents à venir nous rejoindre au podium. Si vous avez des questions, levez la main, identifiez-vous, dites votre nom et posez votre question. Très bien. Je vais demander aux membres du RSSAC de se présenter. Fred Baker, John Crane, ICANN, Cover Reichenbach, RIPE NCC, Brad Burbell, Lars Lehmann. Très bien, dit Cheng. Nous allons commencer avec les questions. Cathy au micro. Nous avons une question en ligne de José de la Cruz. La question est la suivante. Y a-t-il des plans pour étendre les entités pour qu'il y en ait plus de 13? Il y a des plans pour étendre des entités pour qu'il y en ait plus que 13? Alors, Cavell au micro. Tout d'abord, techniquement, ce serait possible d'élargir cela. Mais je pense que la question qu'il faut se passer, poser, c'est pourquoi faudrait-il étendre cela ? Du point de vue technique, si vous voyez la situation actuelle, ajouter des nodes ou ajouter des lettres ne fera pas une différence vraiment visible. La première question qu'il faut se poser, c'est que voulons-nous faire en ajoutant de nouveaux identificateurs ? Lars, au micro. Brad, pardon. Verisign. Je vais ajouter à cela que c'est une question que l'on nous pose régulièrement. Et la question de la part du RLSAC, c'est que nous essayons de voir si l'on doit ajouter ou même éliminer certaines de ces entités. C'est ce que nous évaluons. Et c'est un point qui se trouve dans notre liste de travail. Mais comme Kaveh l'a dit, faire cela viserait à résoudre un problème technique. Merci Kaveh et Brad, dit Cheng. Je vais maintenant ouvrir le micro à des questions des personnes ici présentes. Le monsieur, merci de bien vouloir dire votre nom, dit Cathy. Merci beaucoup. Je m'appelle Abdul Karim. Je viens du Nigeria. C'est la première fois que je viens à une réunion de l'ICANN. Je suis boursier. Ma question concerne les serveurs racines, parce que les serveurs racines sont... il y en a plusieurs avec la même adresse IP. Donc, quel est le problème avec ces différents serveurs qui sont égaux? Comment peut-on les différencier puisqu'ils ont la même adresse IP? Fred Baker au micro. C'est une question sur le fonctionnement de Anycast. Il y a eu une présentation par rapport à cela. Le point fondamental, c'est le routage. Le point fondamental, je répète, c'est le routage. Chacun de ces serveurs fournit son service, c'est-à-dire répond aux requêtes qui leur sont envoyées. Mais ces serveurs sont en relation avec les fournisseurs de services Internet et annoncent leur adresse. Alors, quand il y a une requête qui va vers cette adresse, le routage est envoyé au serveur le plus proche. Et si ce serveur est en panne ou si on perd ce routage, cette adresse est retirée par le BGP. Il y aura une autre instance qui va prendre le relais et donc le routage va se diriger vers un autre serveur. Et c'est la façon dont cela fonctionne. Au pire des cas, imaginons, je ne sais pas si cela pourrait arriver, mais imaginons que l'adresse n'est plus disponible dans le routage, parce qu'elle n'existe plus. Alors, l'une des raisons pour laquelle nous avons 13 serveurs racines, c'est pour que quelqu'un qui veut résoudre une adresse dans leur ordinateur puisse aller interroger quelqu'un d'autre s'il y a un serveur qui est en panne. Lehman, Lars Lehman, au micro. J'aimerais ajouter que quand nous utilisons Anycast, tous les serveurs ont deux adresses IP. Une de ces adresses IP est la même pour tous les ordinateurs. Et c'est ce qui est utilisé pour le trafic DNS. En outre, chaque serveur possède une adresse unique et séparée. Et cela est utilisé par les opérateurs pour pouvoir y arriver à leur tour à ces serveurs. John Crane au micro. Je pense qu'il y a également une requête DNS différente où chaque instance a un nom que vous pouvez interroger dans le DNS. Je pourrais vous montrer cela si cela vous intéresse. Merci pour cette question, dit Cheng, et pour les questions. Le monsieur qui est au fond de la salle. Je viens d'Inde. Une partie de la sécurité du DNS est assuré par le DNSSEC. Pouvez-vous nous dire dans quel pays le DNSSEC a été complètement déployé? Et pouvez-vous nous dire s'il y a eu des problèmes associés à cette mise en œuvre? Question sur le déploiement du DNSSEC.
Là, Slimane au micro. Je pense qu'il y a... C'est Steve Cheng, pardon. Il y a un atelier du DNSSEC mercredi. Je pense qu'au début, ils vont vous montrer les quantités de pays qui ont déployé le DNSSEC autour du monde. Donc, ce serait une séance où vous pourrez trouver toutes ces informations. Près de verre de micro. Ce n'est pas véritablement dans notre portée. Mais peut-être que vous pourriez paraphraser cette question et de la lier un peu plus à la racine. Peut-être qu'on pourrait y répondre. Kaveh Ranjbar de RIP-NCC. Alors, pour préciser, ce que nous publions en tant qu'opérateur de zone racine est le fichier de zone racine, c'est-à-dire le fichier qui est signé. C'est-à-dire que les opérateurs de zone racine, en général, commencent à travailler avec des données qui sont déjà signées. Et nous faisons la distribution de ce fichier. Ce n'est pas nous qui signons quoi que ce soit. Tout ce que nous faisons est de distribuer ce fichier qui est déjà signé. Que nous sachions, l'intégrité de ce fichier est toujours assurée. Et c'est ce que nous vérifions au moment de distribuer les contenus de ce fichier. Steve Cheng au micro, merci. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui, monsieur? Oui, je suis de Kiribati. J'ai une question. Lorsque nous déployons le DNSSEC, se pourrait-il qu'il y ait des problèmes avec les noms de domaine enregistrés sous le .com qui n'aient pas assuré l'intégrité de leur nom vis-à-vis du DNSSEC? Ça reste un problème? Steve Cheng au micro. Oui, cette question correspond plutôt au DNSSEC et je pense que c'est plus approprié pour l'atelier du DNSSEC de mercredi. Donc je vous invite à participer à cet atelier. Venez me voir à la fin de la séance et je vous dirai exactement les détails de cet atelier. Attendez, j'ai une question en ligne et puis vous êtes le suivant. Cathy Peterson au micro. J'ai une autre question de José de la Cruz qui demande qui peut participer au RSSEC. Steve Cheng, vous voulez répondre? Brad Baird au micro. Le RSSEC a un caucus de plus de 80 membres en ce moment. Ce sont des experts en la matière. Et en général, tous les membres ou toutes les équipes de travail sont créées par le caucus ou sous les auspices du caucus, en tout cas. Et ici à l'écran, vous avez l'adresse de notre site web. Si vous voulez consulter les membres du caucus ou si vous voulez rejoindre le caucus, vous pourrez contacter l'adresse email. Il y aura un groupe qui va vérifier votre candidature. Il faudra signer une manifestation d'intérêt et vous pourrez devenir une partie du caucus et donc une partie de la solution. Steve Cheng, merci Brad et merci José de nous poser cette question. Kaveh Ranjbar au micro. Steve, si vous permettez, je voudrais réitérer quelque chose. La plupart du travail technique du RSSEC est accompli au sein du caucus. C'est-à-dire que si vous êtes un membre du caucus, vous faites partie de la solution, vous faites partie du travail. Donc, comme on montrait tout à l'heure dans les diapositives, il y avait 13 opérateurs qui font la plupart du travail de gestion ou d'administration. Lorsqu'on reçoit une question ou qu'il est nécessaire de formuler un avis, le travail se fait au sein du caucus et tous nos membres du comité du RSSEC font également partie du caucus du RSSEC. C'est-à-dire que si vous voulez participer à la résolution du problème, vous pouvez rejoindre également un groupe de travail, une équipe de travail. Mais chaque équipe de travail est formée par le caucus et le travail essentiellement se fait au sein du caucus. Brad Baird de micro, et le travail est également formulé ou fait par les personnes qui font partie du caucus. Ce n'est pas que le caucus fait le travail et d'autres, en fait, vont être reconnus ou remerciés. Steve Cheng au micro, merci. Oui. Abdelkarim prend la parole. Encore une fois, j'ai une autre question. Je voudrais savoir quelle est la fréquence des réunions du RSSEC et la fréquence des réunions du caucus. Brad Baird de micro. Le RSSEC se réunit une fois par mois. Nous tenons des appels mensuels. Il y a des procès-verbaux de chaque réunion. Et les différentes questions sont abordées au cours de ces appels. Nos procès-verbaux sont publiés, n'est-ce pas? Non? Les procès sont publiés, oui, d'accord. Les réunions ne sont pas publiques. Les procès sont publiés et le RSAC se réunit également ici dans le cadre des réunions publiques de l'ICANN. Et ces dernières années, nous avons également organisé 2 ateliers par an pour présenter notre travail sur l'extensibilité. Si cela vous intéresse, vous pouvez venir à notre réunion publique du RSAC. Pour ce qui est du caucus, le caucus travaille en ligne. Les équipes de travail travaillent constamment, c'est-à-dire que les travaux des différentes équipes pourraient organiser des appels hebdomadaires ou 2 fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Ça va dépendre de la charge du travail. Les réunions du caucus en elles-mêmes se tiennent ici lors de l'Assemblée générale ou la réunion générale annuelle. Et c'est le caucus qui décide de la fréquence de ces réunions. Donc nous avons conclu que le mieux était de se réunir lors des réunions générales annuelles et toutes les 2 réunions de l'IETF. Donc en fait, ce sont les réunions pairs de l'IETF. C'est à ces réunions-là que le caucus va se réunir. Steve Cheng au micro, merci. Et donc la prochaine réunion du caucus sera lors de la réunion 102 de l'IETF à Montréal. Merci. D'autres questions? Oui, monsieur à gauche. Merci, je m'appelle Borin Tengwa. Je viens de l'organisme de réglementation de télécommunications de Zimbabwe. Et l'un de nos serveurs racines est situé à Zimbabwe, mais si je voulais savoir si les serveurs de nom vont être hébergés suivant les négociations des pays, ou si c'est l'ICANN qui accorde ce privilège, ou comment ça fonctionne. Steve Cheng au micro, merci. Donc, en fait, la question est par rapport à l'hébergement d'une instance de la zone racine. Lehman, Lars Gerhard Lehman prend la parole, de NetNode. La plupart des opérateurs de serveurs racines ont des nuages d'Anycast et sont prêts à tenir des négociations par rapport à où les héberger. Ce n'est pas une question de négociation entre le pays et l'opérateur de serveurs racines, c'est des discussions avec les opérateurs spécifiques. Donc très souvent, ce sont des points d'échange de trafic Internet ou de grands fournisseurs de services Internet. Mais vous avez tout à fait raison, il y a des exigences à respecter. Tout à fait. Pour la plupart des cas, il s'agit d'exigences techniques et financières. Nous travaillons sur la consolidation d'une liste de points de contact, mais je vous conseille de contacter les opérateurs de serveurs racines pour que l'on essaye de vous expliquer comment nous voyons la relation et quelles sont les exigences de notre côté. Je suis sûre que les autres pourront faire la même chose à leur tour, mais ça dépend un peu de l'environnement. Donc, il faudrait voir si on arrive à trouver un moyen de respecter les exigences, parce qu'il a des exigences, tout à fait, oui. Steve Cheng au micro, merci Lehman. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur ici. Pardon, je suis encore Abdelkarim. Je me disais que le serveur racine et le DNS sont des parties importantes de l'Internet, certes, et que le fonctionnement de tout ce système semble être très ouvert. Mais on parle de personnes qui voudraient pouvoir attaquer les serveurs de nom. Mais si tout le monde peut participer à la réunion, tout le monde peut contribuer, comment faites-vous pour éviter que les personnes qui veulent utiliser à mauvais escient ce service le fassent? Steve Cheng, qui c'est qui veut répondre? Kaveran Schmar au micro. C'est une bonne question parce qu'on a différentes arêtes par rapport à cette question, différents aspects, mais du point de vue de RIPE NCC, et je pense qu'en général, tous les opérateurs de serveurs racines seront d'accord. Et c'est le fait qu'on ne peut pas garantir la sécurité de la racine si tout le monde ne participe pas. Donc on est très ouvert sur le fonctionnement et sur la conception même du DNS. Donc vous pourrez trouver des informations sur les instances. Très souvent, on publie ces informations, même s'ils ne sont pas publiés. Il est très facile de comprendre le fonctionnement. Donc le système est ouvert. Et nos capacités du point de vue technologique vise à garantir la réponse à tout type de requête. Et oui, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de requêtes illégitimes, soi-disant, pour nous attaquer, peut-être, mais en général, on a la capacité de pouvoir répondre à les bonnes requêtes, aux bonnes requêtes. John Crane prend la parole. Ces réseaux sont exploités par des professionnels, c'est-à-dire que tous les opérateurs ont des ingénieurs formés, des personnes qui sont des professionnels, et l'intégrité de nos systèmes est quelque chose que nous tenons à cœur. C'est pourquoi, lorsque vous hébergez une instance, par exemple, il existe des exigences par rapport à qui peut accéder aux machines et comment ces personnes peuvent le faire, etc. Donc, c'est quelque chose que nous prenons très au sérieux. Mais comme le disait Cavé, la conception du DNS est quelque chose de très ouvert. Donc, je pense que c'est tout simplement la nature de notre protocole. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci. Mourad Vert, de micro. Pour ajouter ici à votre question, je pense que vu que le RSAC et le caucus du RSAC sont ouverts et que tout le monde peut nous rejoindre, rien n'empêche les délinquants de nous rejoindre. C'est ce que vous vouliez dire. Et je pense que oui, c'est un risque, c'est vrai, parce que nous voulons travailler de manière ouverte et transparente et nous voudrions connaître les différents points de vue des personnes pour pouvoir parvenir aux bonnes solutions pour tous les problèmes techniques que nous affrontons. Et en tant que coprésident du groupe, je dirais qu'on espère avoir suffisamment de freins et contrepoids, suffisamment de systèmes pour vérifier la bonne foi des personnes qui veulent participer pour pouvoir savoir ce qui se passe. Mais que je sache, ce n'était jamais le cas. On n'a jamais eu de personnes ou de délinquants qui nous rejoignent, mais oui, c'est un risque, absolument. Je suis Ravoul Gossain, je viens de l'Inde. Je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure lors de la présentation. Vous parliez du fait que le routage du trafic est déterminé non pas par la zone mais, ou par le serveur, mais que c'est les routeurs en fait qui vont le déterminer. Dans les exigences du RSAC 002, vous parliez du fait que les opérateurs de serveurs racines sont tenus de publier les statistiques du serveur racine. Donc je voudrais savoir, pour décider ou déterminer le trafic total dans un emplacement ou un pays déterminé, comment pourrais-je extrapoler ces données ou alors comment pourrais-je trouver ces résultats à partir des statistiques qui sont disponibles en ligne des différentes sources à code ouvert. Brad Verne, merci. Je pense que la réponse la plus simple serait de vous dire que ce n'est pas possible. Le trafic du DNS de la racine ne devrait pas être utilisé comme une mesure du trafic Internet total. L'intervenant de l'Inde, non, en fait, ma question est comment pourrais-je estimer ou avoir un résultat approximatif de ce trafic par emplacement? Comment utiliser ce trafic du DNS pour parvenir à ces résultats? Caberange-Mar au micro. En général, pour avoir des résultats approximatifs utiles, on ne peut pas utiliser le DNS. Ce n'est pas le but du DNS. Mais il y a d'autres techniques possibles. Par exemple, Google MLAB mesure le trafic et ils essaient d'estimer le reste du trafic pour un pays ou pour une région. Il y a d'autres projets, c'est ça que je veux dire, mais le DNS n'est pas la bonne plateforme pour le voir. Les contenus ne passent pas par le DNS, mais les informations par rapport au DNS à tout niveau, surtout au niveau de la racine, il y a beaucoup de résolveurs qui ont des informations en cache et cela n'est pas visible pour nous. Donc en fait, c'est impossible de savoir, même à niveau approximatif, quel est le trafic. Fred Baker au micro. Cavé, pour compléter, en fait, lorsque vous accédez à un système de serveur racine et qu'on vous dit j'ai reçu cette quantité de requêtes IPv6, entre autres, on vous demande en fait par rapport aux requêtes à la racine, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui essaient de trouver les adresses sous le .com, sous le .net. Mais on ne parle pas des emplacements particuliers ou de compagnies individuelles. On parle de registres, tout simplement. C'est-à-dire que les données ne sont pas les bonnes. Steve Chang au micro, merci. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des questions en ligne? Cathy Peterson, non. Plus de questions à distance. Ah, nous avons une autre question dans la salle. Abdelkarim, encore une fois, pardon. Mais pour ce qui est du RSA et de l'organisation du renforcement de capacité, est-ce que vous organisez ce type d'atelier de renforcement de capacité pour les personnes qui viennent des pays en développement ou pour ceux qui sont intéressés? Parce que souvent, par exemple, une personne qui est intéressée, mais qui n'a jamais vu un serveur Racine de sa vie, qui voudrait savoir ce que vous faites, cette personne se retrouve avec des informations trop techniques. Et donc, on n'a pas moyen de savoir plus, de pouvoir satisfaire à cette inquiétude. Kaveh Ranchbar prend la parole. Je ne suis pas sûre d'avoir bien répondu la réponse. En tant que boursier et assistant pour la première fois, merci d'être aussi impliqué. C'est très encourageant. Par rapport au renforcement de capacité, chaque opérateur de serveur Racine pourrait avoir ses propres plans. Par exemple, au nom de RIPE NCC, nous sommes un registre Internet régional, RIR, d'Europe, Moyen-Orient et l'Asie centrale. Donc, non seulement dans notre région, mais également dans le reste du monde, c'est-à-dire en Afrique, dans la région Asie-Pacifique, nous travaillons avec d'autres RIR. Dans le cas, par exemple, de l'Afrique, nous avons un protocole d'accord avec Afrinic ou avec Apinic dans le cas d'Asie-Pacifique. Mais suivant cet exemple de l'Afrique, avec Apinic, en Afrique, nous avons créé, ou plutôt Afrinic a créé et a établi une alliance avec ISOC Afrique. Et ils sont en train de chercher des bailleurs de fonds pour avoir du financement nécessaire. Ils parlent avec des différentes parties impliquées pour pouvoir organiser ce type d'atelier de renforcement des capacités dans le cadre de ISOC Afrique, entre autres. Donc, vous voyez que nous avons différentes méthodes. Chacun a ses propres méthodes pour former les participants dans sa région. Donc, il faudrait que vous en discutiez avec les différents opérateurs de la zone Racine, mais on lui demandait tout à l'heure comment faire pour avoir une instance de serveur Racine. Il existe un site web où vous avez une liste de chaque opérateur et vous trouverez à côté du nom de l'opérateur l'adresse web pour chaque service. Donc les services VeriSign pour la Racine ou autre. Mais tous les arrières sont énumérés sur cette page web et vous pourrez trouver les informations pour les contacter. Brad Verde au micro. Un bon nombre de ces questions sont plutôt opérationnelles et il y a ici des opérateurs de zone Racine également. Mais en tout cas, RSAC fournit des conseils, des avis sur le système au conseil d'administration. Et un bon nombre de ces questions ne portent pas sur RSAC. Nous sommes prêts à y répondre. Nous voudrions être aussi transparents que possible, mais il faudrait maintenir la distinction entre RSAC et les opérateurs de la Racine. D'accord? Merci. Steve Cheng au micro, merci. Y a-t-il d'autres questions? Non? Ah, Lehman. Lassurin Lehman prend la parole. Oui. Si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit à la fin de la séance, venez nous parler. Au moins, je parle en mon propre nom. Je ne sais pas quel est le cas avec le reste de la tribune ici. Mais au moins, moi, je serai prêt à vous donner la réponse que je pourrais vous donner, où que ce soit. Brad Verde de micro. Oui, et moi aussi. Je voulais attirer votre attention sur la foire aux questions qui a été publiée sur la page web récemment, même si, comme je disais tout à l'heure, un bon nombre de ces questions sont de type opérationnel. Mais nous avons essayé de capturer toutes ces questions qui sont apparues à partir des différentes présentations de notre groupe. Et cette liste, cette foire aux questions, est en évolution constante. C'est-à-dire que s'il y a des questions qui n'apparaissent pas, c'est sûr que votre question sera aussi un doute pour quelqu'un d'autre. Donc envoyez-la nous pour qu'on puisse ajouter. Steve Cheng au micro. Voilà. Et je vous montre ici à l'écran le site web du RSSAC où vous voyez différentes sections. Donc, on a réunion, caucus, publication et les facultés, l'info aux questions. Lorsque vous accédez à ces liens, que vous les suivez, vous trouvez d'autres informations sur l'adhésion au RSSAC, sur les publications, l'adhésion au caucus, les réunions et l'info aux questions. Le site web route-serveur.org était le site dont je parlais tout à l'heure, qui contient les points d'accès aux différents serveurs Racine. Donc, si vous avez des questions, des doutes, vous trouvez des informations de contact là-dessus. Et c'est également ici qu'apparaît cette carte que nous avons tirée pour notre présentation. Donc, vous voyez que vous pourriez voir dans plus de détails chaque région et voir davantage d'informations là-dessus. Cela dit, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais vous remercier d'avoir participé à cette séance. Je remercie aux membres du RSSAC d'avoir répondu à vos questions. La séance est maintenant ajournée. Cathy Petersen, merci à tous.